Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Bienvenue dans Take Off, un podcast où je pars à la rencontre des femmes et des hommes qui sont à l'origine des plus belles startups françaises. Merci à eux qui me reçoivent à leur domicile le temps d'un petit déjeuner et merci à vous d'être là une nouvelle fois pour m'accompagner durant cette troisième saison. C'est un matin tranquille à l'ouest de Paris. La route qui mène depuis la gare jusque chez celui qui me reçoit ressemble à une ascension. Et d'emblée, elle me fait penser à son parcours. Depuis qu'il a commencé à créer des entreprises il y a plus de 20 ans, Eric Carrel se fait surtout remarquer par sa discrétion. Sa silhouette longiligne se fait rare dans le microcosme de la French Tech. Pourtant, c'est un inventeur hors pair. Livebox, Weezings, Sculteo, Zouv, que ce soit les objets connectés ou le vélo électrique, ses inventions façonnent toujours le monde de demain avec un temps d'avance. Chevalier de la Légion d'honneur, Eric Carrel est aussi un asset érudit concerné par l'état du monde et la manière dont il peut contribuer à le préserver. Je suis Guillaume Brégeras, journaliste aux Échos. Vous écoutez Take Off et je vous souhaite de passer un très très bon moment. Eric Carrel, bonjour.
Bonjour.
Merci de me recevoir près de Paris, donc à Meudon.
Oui, le dire. Un Meudon.
Et la première question, c'est en fait, elle est liée au fait que vous avez 4 entreprises aujourd'hui. Beaucoup d'entrepreneurs qui me reçoivent m'expliquent déjà la difficulté à en gérer une seule. Comment vous organisez au quotidien pour gérer ces 4 entreprises?
Alors déjà, il y en a 3 des 4 qui sont sur le même lieu, ou quasiment à 300 mètres l'une de l'autre. Donc, je vais de l'une à l'autre plusieurs fois par jour. Et la quatrième est plus loin, et là j'y vais beaucoup moins, et je m'en occupe moins aujourd'hui.
D'accord. Et est-ce que vous avez des outils en particulier pour essayer d'avoir une vision globale sur les 4, ou comment vous organisez?
Bien sûr, il y a des outils assez classiques, du genre suivi de trésorerie, et suivi de chiffre d'affaires toutes les semaines, etc. Et puis, il y a surtout des contacts très fréquents avec chacun des dirigeants des boîtes quotidiennement. Il y a des choses comme des messageries partagées, type Slack, etc., qu'on utilise, qui nous permettent de partager beaucoup d'informations toute la journée.
D'accord.
Donc, il n'y a rien de très spécial.
Rien de très spécifique. Vous êtes un ingénieur, on reviendra un peu sur votre parcours plus tard dans ce podcast, mais en tant qu'ingénieur, comment vous arrivez à vous détacher au quotidien du produit que vos entreprises créent pour garder une vision aussi macro de leur trajectoire?
Je suis pas sûr que je sache le faire, c'est-à-dire que, et d'ailleurs plus j'avance, plus j'ai l'impression que j'ai envie de me concentrer sur le produit, parce que c'est ça que j'aime, et de confier le reste. J'ai bien sûr en tant que chef d'entreprise une responsabilité sur la viabilité économique de l'entreprise, mais je sens bien que ce côté modelage de la matière, dans mon histoire, c'est ce qui fait que je suis devenu entrepreneur. Que le reste, c'est quelque chose que j'ai appris un peu à la dure, parce que, on y reviendra peut-être, mais j'ai commencé à être entrepreneur quand c'était pas du tout la mode, quand Internet n'existait pas il y a très très longtemps. Mais ça n'est toujours pas ma tasse de thé.
Qu'est-ce qui vous rebute à ce point-là?
C'est pas que ça me rebute, mais par exemple, l'exercice commercial est quelque chose qui n'est pas naturel pour moi. Peut-être c'est lié à mon histoire, j'en sais rien. J'ai essayé de le faire en B2B pendant toute la première partie de ma carrière, quand on était dans les télécoms et on vendait par exemple à des opérateurs télécoms, où grosso modo, il y avait un exercice qui demandait énormément d'efforts pour des très gros appels d'offres et 90% de ce qu'on faisait ne servait à rien. C'est-à-dire que ce qu'on disait dans l'entreprise, c'est que quand vous travaillez avec un grand groupe, vous avez forcément un tas de gens qui participent à la demande. et que finalement, il y a beaucoup de services qui demandent des choses qui sont pour eux, mais qui ne sont jamais pour le client final. Typiquement, quand on faisait des gateways pour les opérateurs télécoms, on estime que 4/5 de ce qui nous était demandé ne servait jamais à personne, mais ça nous est demandé dans le cadre de l'appel d'offres, donc on était obligé de le faire. Alors, c'est peut-être normal, dire que finalement, il n'y a qu'un cinquième de ce qu'on fait qui sert, est peut-être normal. Mais enfin, en tous les cas, moi, ça me pesait tout cet exercice de séduction, etc. Et c'est un peu la raison pour laquelle, après ce rachat d'entreprise et puis le démarrage d'une nouvelle entreprise, j'ai voulu qu'on soit dans le B2C. Alors, le B2C a d'autres difficultés. Je crois que la chose la mieux, c'est d'avoir des personnes compétentes à côté de soi qui gèrent mieux que moi cette chose.
D'accord. Parlons justement un peu de B2C et de Weezing, parce que vous êtes un des rares entrepreneurs, même dans la tech, dans le monde, à avoir vendu votre entreprise et l'avoir acheté aussi après. Qu'est-ce qui a motivé ce rachat ? Donc, pour rappel, Weezing a été vendu en 2016 à Nokia.
Était vendu le 1er juin 2016 et je l'ai racheté le 1er juin 2018.
Ah, c'est une belle boucle, ça, j'avais pas la date en tête, moi.
Deux ans, jour pour jour.
Vous avez fait exprès?
Non, j'ai pas fait exprès. Mais pour essayer de répondre à votre question, d'abord, c'était pas du tout prévu. Mm-hmm. Ce qui était clair, c'est que au moment où l'entreprise a été rachetée, moi, j'étais un peu bougon. En fait, j'ai vendu deux entreprises dans ma vie. À chaque fois, c'était un peu une douleur pour moi parce que je pense que je dis parfois, je crois être le père de mes enfants, mais je pense que je suis un peu la mère de mes entreprises. Et donc, il y a une espèce de difficulté à se détacher. Et donc, à chaque fois, c'est un peu d'autres qui prennent la décision à ma place. Là, d'ailleurs, Nokia l'avait bien compris, puisqu'il m'avait un peu mis conseiller du président. C'est-à-dire, bon, j'étais pas un peu à côté. Et donc, je crois que j'avais commencé à faire mon deuil de cette histoire, si on peut dire, même si ça restait pour moi une belle aventure. J'y reviendrai d'ailleurs après. Il se trouve que j'ai appris à peu près en même temps que les journalistes que l'entreprise allait être à vendre. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est remis en marche en moi, d'autant plus que je continuais à croiser l'équipe à peu près tous les jours, puisque je travaille dans les autres entreprises dans le même périmètre. Donc, je savais ce qui s'est passé, je savais qu'il y avait encore une énergie. Ça reste pour moi une équipe absolument extraordinaire, avec une envie d'aller de l'avant, de chercher, etc., que je trouve magnifique. Je trouve que le sujet de la santé, on l'avait juste effleuré. Mmh. C'est-à-dire que on était arrivé un peu là par hasard, puisqu'on venait des télécoms, on avait voulu faire des objets connectés, puisque quelque part, on avait senti cette évolution à travers nos relations avec les opérateurs, les échecs des opérateurs, ce que Steve Jobs commençait à faire avec l'iPhone. Et donc, on s'est dit, ben voilà, les objets vont être connectés et il va y avoir... On va passer d'un monde organisé horizontalement où on a des couches de sous-traitants qui se donnent des ordres les uns aux autres pour, à un moment donné, avoir un gros portail type opérateur télécom ou opérateur d'énergie, où on pourrait faire ça à peu près dans toutes les industries, qui s'adresse à l'utilisateur final, à un monde vertical où chaque acteur s'adresse à l'utilisateur final en lui offrant un service à travers un hardware et en étant capable de gérer ce service à travers les données. Donc on avait compris ça, on s'est dit on va faire un objet connecté. On a fait par hasard un peu un pèse-personne, vraiment par hasard. Et pour la première fois de notre vie, alors qu'on avait fait des dizaines de millions de box, il y a des gens qui nous ont écrit en disant « tu m'as changé la vie », alors qu'on ne nous avait jamais écrit avec des millions de box, alors qu'on en avait fait quelques milliers. Et là, on a compris qu'il se passait quelque chose, même si un pèse-personne envoie peu de données, il y a des données qui sont importantes. Et petit à petit, on a creusé ce côté-là, on a des utilisateurs qui nous ont dit « pourquoi vous ne faites pas attention à être connecté ?» On est rentré un peu là-dedans. Au début, c'était plutôt du bien-être. Mmh. Et ensuite, on voit qu'on rentre vraiment dans la prévention de la santé. Et là, on voit que la santé de demain, elle sera quand même beaucoup dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire que le monde passe d'une organisation où on côtoie le monde médical en cas d'urgence à une organisation où on va être accompagné dans notre vie quotidienne avec le corps médical mais à travers des relais, et ces relais utilisent les devices. Donc, voilà le métier de WeThings tel qu'on le présentait. Il y a 4 ans, on n'avait pas eu le temps de... On avait essayé trop tôt d'aller dans cette direction. La France étant un pays en retard là-dessus, nous étant français, on s'était un peu pris des claques. Donc, on était un peu sur un plateau. Mais là, 3 ans après, je sentais qu'il y avait, une transformation du monde sur ce sujet. Et donc, il y avait à la fois une équipe formidable et un sujet formidable. Et donc, je me suis dit, on va essayer.
Mais comment vous expliquez que Nokia, qui est quand même pas un petit acteur, ait échoué à transformer ce que vous aviez vu?
Alors, là, c'est une histoire de assez classique dans les grands groupes. C'est-à-dire, c'est pas que Nokia a échoué, c'est que il y a eu un certain nombre de mouvements de personnes et de division de la responsabilité entre San Francisco d'un côté et la Finlande de l'autre, qui fait qu'à un moment donné, l'entreprise n'était plus managée. Et donc, c'est un peu parti, c'est un peu vogué comme ça, sans direction. Et à un moment donné, Nokia s'est dit, de toute façon, c'est pas, ça vogue parce que ce n'est pas notre cœur de métier, ce n'est pas notre direction. Donc, il n'y a personne dans l'entreprise qui est vraiment porteur de ce sujet-là. Et donc, le board a décidé qu'il fallait s'en séparer.
Et vous avez rapidement compris justement que Nokia n'arriverait pas à emmener cette aventure plus loin. Est-ce que vous le suiviez déjà à l'époque? Vous aviez du mal avant de vous en détacher?
Alors, je le suivais. En même temps, je trouve que j'étais dans une position qui n'était pas en capacité de juger, puisque il y a toujours ce côté affectif de ce qu'on a fait, de ce qui est détruit, de ce qui est fait différemment, qui fait que, j'avais déjà vécu ça dans une première partie de ma vie, qui fait qu'on, je sais que ce que je pensais n'était pas, il fallait que je m'en détache, quoi, point barre. Donc.
Mais est-ce que vous l'avez vécu un peu comme, est-ce que c'était vécu aussi un peu comme un échec? C'est-à-dire, souvent, on présente la revente d'une société, d'une entreprise dans ce secteur comme la panacée. Est-ce que vous l'avez vécu aussi en partie comme un échec?
Moi, j'ai fait que 2 fois. À chaque fois que je vends une entreprise, à un moment donné, je vis ça un peu comme un échec. Et, un peu un traumatisme. Alors que ça devrait être le contraire, puisque je reçois beaucoup d'argent, etc. La première expérience que j'ai vécue, où on s'était battu comme... On a mis toute notre énergie, qu'une équipe de 80 personnes a essayé de construire ce qu'on considérait comme une cathédrale. Enfin, c'était... Et en fait, quand on s'est fait racheter par Thomson, l'image qui nous est venue, c'est... On a construit une cathédrale qui était en fait une cathédrale de sel au bord de la plage, et les vagues viennent prendre les fondations petit à petit, et la cathédrale, elle tombe, et à la fin, il n'y a plus rien. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on aurait dû être triste de ça, et on s'est aperçu qu'on ne l'était pas, et on s'est un peu demandé pourquoi. Et le pourquoi, c'est finalement ce qu'on a vécu, c'est ce qui reste. On se bat pour un objectif, l'objectif, il est là pour nous tirer. Mais peu importe qu'on ait construit cette cathédrale ou qu'on ait construit autre chose ou rien, ce qui est important, c'est les relations qu'on a vécues. Et pour cette première entreprise, on se retrouvait de temps en temps dans un café Place de la Contresca, dans Paris. Il y avait une énergie absolument incroyable. Les uns étaient encore chez Thomson, d'autres étaient dans d'autres entreprises. Et on sentait qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, qu'on avait vécu quelque chose. Et... En fait, maintenant, je suis convaincu que c'est la seule chose qui est importante. Ça n'empêche que, pour moi, ça reste un truc que je ne sais pas m'expliquer, qu'on a besoin d'avoir cet objectif, ce truc qui nous tire parfois de façon inexplicable, déraisonnée. Pourquoi on s'est battu pour faire un PES-personne connecté en 2008 ? Objectivement, c'est difficile à savoir. Aujourd'hui, on sait pourquoi et on sait que c'était une bonne idée. Je me souviens que ma fille aînée, quand j'ai commencé WeThings, elle m'a dit « Papa, avant, tu faisais des trucs sérieux, mais là, franchement, je ne comprends pas. » Et ça m'avait un peu atteint, parce qu'effectivement, je ne savais pas. Donc, il y a quelque part un truc qui nous entraîne qu'on ne maîtrise pas, Mais à la limite, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'on s'assure que on vit quelque chose entre nous à ce moment-là, et puis il en sort quelque chose.
D'accord. Et finalement, est-ce qu'il y a une forme de, d'allégresse un peu, peut-être, dans la construction d'une entreprise comme ça? Et est-ce que lorsque ça s'arrête, il y a quelque chose qui se termine, mais comment on gère justement cette partie-là?
Ben, oui, ça, pour moi, ça reste une vraie question. C'est-à-dire que, entre guillemets, les phases de création, de croissance, de... une chose qui s'éveille, c'est toujours excitant, on a toujours envie d'y participer. On voit bien que dans la vie, il y a aussi la phase de décroissance. Et c'est pareil pour les entreprises. Et avec les années, je me suis dit, finalement, il faut avoir beaucoup d'admiration pour les gens qui gèrent une décroissance d'entreprise. C'est compliqué. Une entreprise qui marchait super bien, à un moment donné, il faut se séparer de personne, il faut réduire la voilure, etc. En fait, j'ai beaucoup d'admiration maintenant pour ces gens parce qu'ils font un travail difficile dans lequel il n'y a pas forcément, au premier abord, premier degré, cette allégresse ou cette excitation que nous, on ressent en créant quelque chose.
Comment on gère justement, enfin comment on injecte une dose d'humain, comme on dit, dans la gestion d'une entreprise? C'est vrai que beaucoup d'entrepreneurs, surtout dans la tech, peuvent être perçus comme étant très travailleurs. Parfois, ils emmènent leurs équipes de manière peut-être même un peu brutale. Et pourtant, certains autres, dont vous faites partie, puisque certains m'ont dit ça, comment on injecte une part d'humain dans le management, dans la manière dont on gère ses équipes?
Ouais, je ne sais pas trop répondre à cette question. Je pense qu'on est un peu ce qu'on est et on essaye de le vivre. Moi, je sens bien qu'il y a des moments dans ma vie d'entrepreneur où j'ai été stressé par la trésorerie. Mmh. Et je sens bien que dans ces moments-là, je deviens un peu machine, quoi. C'est-à-dire que, en fait, ce que je dis souvent à des jeunes entrepreneurs, il y a un truc qui est insupportable dans la vie d'entrepreneur, c'est de ne pas savoir comment on va payer ses salariés à la fin du mois. C'est vraiment le seul truc. Le reste, après, on se prend des claques, etc. Mais voilà. Et le truc qui, plusieurs fois dans ma vie, m'a vraiment empêché de dormir, c'est de gérer de la trésorerie au jour le jour, d'appeler les banques plusieurs fois par jour. Bon, voilà. Ça, c'est vraiment insupportable. Après, le reste, on est soi-même. Et moi, il y a des moments où j'ai les larmes aux yeux en croisant une personne dans un couloir parce que je me dis, cette personne, elle est en train de... Voilà, elle fait ce qu'elle aime, elle se réalise, elle prend des responsabilités. Je l'ai embauchée, elle sortait d'école. Aujourd'hui, elle prend des initiatives, elle manage avec beaucoup de brio des équipes qui construisent. Et ça, franchement, c'est en fait notre seule joie. Quoi. Mmh. Bien plus que d'avoir fait X millions de chiffres d'affaires. Alors, bien sûr... on se fait attraper par le fait que oui, on a une croissance, oui, machin, on est vexé parce que l'autre a grossi plus vite que soi, mais au fond du fond, l'important, c'est cette personne que vous croisez dans le couloir et vous vous dites, elle est belle, cette personne, elle est en train de grandir. Quoi. Et en fait, je pense que... Moi, je ne sais pas pourquoi D'ailleurs, je vais voir une psychologue pour essayer de comprendre. J'ai toujours envie, à mon âge, de me risquer, de reprendre ça. Et je pense qu'au fond, il y a quelque chose qui est de l'ordre de... C'est pour moi un moyen de vivre ensemble des expériences. Je crois qu'on a chacun son moyen. Mmh. Et voilà.
C'est ce qui vous anime. On va parler un petit peu des entreprises, donc que ça soit une Voxia, qui est un tracker GPS sculpté aux ZOOV. Là encore, on est sur des sujets quand même vraiment pas évidents à adresser. Si on parle de ZOOV, vélo électrique partagé, c'est un peu comme les trottinettes, il y en a beaucoup aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des clés dans la manière d'approcher des marchés comme ça qui peuvent apparaître saturés?
Alors, sur ZOOV, je crois que je suis... On est tous les trois fondateurs assez convaincus qu'effectivement, on a approché le marché différemment et que finalement, on aime la façon dont on l'approche. On verra bien si on réussit ou pas. On a vu du surinvestissement avec d'abord des entreprises chinoises, maintenant des entreprises américaines pour mettre des vélos en free floating dans les grandes villes. Enfin, on l'a vécu à Paris, maintenant des trottinettes. Et on voit que ce sont des pics. Ça apparaît et ça disparaît à peu près aussi vite. Et nous, notre profond désir, c'est de participer à la transformation de la mobilité. Et la transformation de la mobilité, c'est... D'abord, ce n'est pas dans le cœur de Paris, parce que la mobilité dans le cœur de Paris, si les gens étaient un peu intelligents, ils auraient arrêté de prendre leur voiture, ils prendraient le métro, il y a un super réseau. Moi, je ne fais que ça, marche à pied et métro. Je trouve que ça marche super bien. Par contre, il y a des gens dans la vie, et on l'a vu récemment en France, qui n'ont pas de solution et... Et il n'y a rien qui se profile. C'est-à-dire que si vous vivez à 8 km du centre-ville, aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire autrement que prendre votre voiture. Et même les histoires type City Scoot avec du battery swapping, c'est-à-dire il y a des gens la nuit qui vont prendre les batteries et les changer, ça ne peut pas fonctionner dans le mode actuel parce que payer quelqu'un qui va aller changer une batterie d'un scooter et qui va faire 10 km pour aller rattraper ce scooter, c'est juste pas possible. Donc il fallait inventer quelque chose qui allait être une croissance douce, plutôt pour les villes qu'on appelle tier 2 et 3, c'est-à-dire de taille, pas la capitale, ou voire des villes de petite taille, mais dans lesquelles on allait s'attaquer à ce problème du transport entre notre domicile et le travail, qui fait pour 80% des gens moins de 8 km. Qui n'est pas possible en vélo parce que ça demande trop d'efforts pour la majeure partie des gens, mais qui est possible pour tout le monde en vélo électrique. Vélo électrique, en fait, c'est comme un scooter, à part que ça va plus vite en ville, puisqu'on a le droit de passer sur les pistes cyclables et de griller la plupart des feux rouges. Et donc, notre travail, ça a été d'inventer deux choses. Une façon de gérer l'ordre dans le cœur des villes, parce que ce désordre est insupportable, et donc on a fait ce système de stack, enfin, je ne sais pas si vous avez vu les photos, où on vient sur une place de parking garée jusqu'à 20 vélos. Donc on se met sur une place de parking, on installe une tête de stack comme une tête de caddie dans un supermarché qui s'installe en moins d'une demi-heure, qui ne coûte pas cher. Et puis voilà, on a de l'ordre. Et puis cette batterie personnelle associée à une batterie communautaire qui est dans le vélo, qui fait que voilà, si j'ai besoin d'aller loin, j'ai une power bank qui peut me servir aussi à recharger mon PC et mon téléphone et qui me permet de faire 15 km et que je peux charger avec mon chargeur de PC. Donc c'est quelque chose qui rentre facilement dans ma vie quotidienne. Tout ça dans cet écosystème de ce qui finalement caractérise à peu près au moins 3 des 4 entreprises dont je m'occupe, qui est ce triptyque produit, service, données. Pour moi, ça, c'est très important. C'est-à-dire que finalement, je suis rentré dans l'entrepreneuriat, moi, par amour du hardware. Enfin, j'aime ça. Mais en fait, le hardware, c'est un intermédiaire pour offrir du service. Aujourd'hui, on a une chance absolument formidable qui est que la connectivité permet, à travers les données, d'être proche de celui qui utilise ce hardware et qui on essaye de rendre un service. Et donc de pouvoir finalement l'accompagner au plus près, à la fois de comprendre presque en temps réel ce dont il a besoin et comment on peut l'aider mieux, et puis surtout de prévoir le coup d'après, parce qu'on a énormément de données pour dire, ben voilà, là on a vécu avec cette version de hardware, on a fait tel type de service, on voit qu'il y a des demandes auxquelles on n'arrive pas à répondre, et on va pouvoir faire ça en plus. Donc ce triptyque produit-service-données qui, quelque part, est un cercle vertueux qui fait que plus j'ai de gens qui utilisent le service, plus j'ai de données, plus je permets d'améliorer mon hardware, plus j'offre un meilleur service, etc. Je pense que c'est un des cœurs de ce qui peut développer les entreprises françaises demain, parce que il y a eu cette première vague des données prises par les GAFA. Ils nous mettent à disposition des outils absolument formidables. Je pense que maintenant, il va falloir mettre du hardware partout. Et on voit bien qu'Amazon et Google s'y attaquent. Apple y est déjà. Et je pense qu'il y a plein de verticales particulières dans lesquelles des sociétés françaises ou des sociétés européennes peuvent être bonnes, à condition de se mettre dans ce triptyque-là. C'est-à-dire que si on continue à faire du hardware sans être en lien avec les utilisateurs, on est mort. Si on fait que du service sans maîtriser le hardware, on est mort. Et ça, on a vu plusieurs entreprises qui sont mortes récemment de ces sujets. Et donc, il faut forcément être dans les trois. Ce qui est une complexité nouvelle, parce que hier, je faisais un hardware, je le refilais à quelqu'un, il s'en débrouillait. Mais c'est une opportunité absolument fantastique. Donc, ça veut dire qu'il faut se focaliser sur quelque chose de plus étroit et en même temps, continuer à faire du hardware. Donc, pour revenir à Zouv, nous, on n'a pas peur parce qu'on a l'impression qu'on est vraiment dans ce besoin profond, durable, et pas dans une espèce de pic de Dirac. Et je terminerai, pour répondre à votre question, avec ce point qui est que j'ai échangé récemment avec Marie Eklund, justement, qui disait finalement, ce qui caractérise un peu l'esprit européen dans l'entrepreneuriat, on essaye aujourd'hui de calquer un peu un mode où on a 9 entreprises sur 10 qui meurent et 1 sur 10 ou 1 sur 100 qui fait quelque chose d'absolument extraordinaire. Je pense que c'est peut-être plus américain qu'européen. Je pense que nous, et on le voit beaucoup puisqu'on met pas mal en avant les entreprises allemandes, on est plus dans un mode qui va moins vite, mais qui est quelque part qui essaye d'être profond, qui essaye d'être durable. Et je pense que c'est important aujourd'hui de se dire voilà ce qu'on est, et donc polarisons-nous là-dessus, parce qu'il y a une vraie opportunité pour demain.
Et vous avez mentionné justement les GAFAM, par rapport au hardware, aux objets, on l'a vu, ils sont prêts à mettre des sommes folles. On pense à Amazon qui a racheté Ring, je crois, 1 milliard. La question, c'est est-ce que les entreprises françaises comme les vôtres ont la capacité à tenir, si jamais votre objet rentre vraiment dans la vie des gens de manière assez forte, est-ce qu'elles ont la capacité à tenir face à ces GAFAM qui pourraient être tentées de racheter et de monter des énormes conglomérats comme ils sont en train de le faire?
C'est un vrai danger. Je ne sais pas. Je pense que à un moment donné, il va falloir qu'on se dise on a envie de continuer, quoi. C'est-à-dire que... Et jusqu'ici, on n'avait pas les moyens de le faire parce qu'il n'y avait pas assez d'argent, parce que bah, finalement, quand vous êtes un entrepreneur débutant, vous devez... Enfin, pas débutant, mais en début de carrière, vous devez d'abord assurer que vous allez au moins faire un exit pour récupérer un peu d'argent et vous dire bah, finalement, quoi qu'il arrive, mon entreprise... Je pourrais continuer à faire vivre ma famille. Là, je pense que ce qui est intéressant dans l'écosystème français, c'est qu'on commence à avoir des entrepreneurs qui ont réussi, qui ont fait des exits, qui réinvestissent. Et c'est intéressant de voir que la plupart recommencent une nouvelle aventure et participent à des fonds. Donc, il y a un cercle vertueux qu'on a connu dans d'autres pays qui est en train de se créer. Et on voit que ça prend du temps, parce qu'en fait, il faut une génération de... Moi, j'ai déposé mon premier demande de création d'entreprise, je pense que c'était en 87. C'était vraiment et compliqué et vu comme une tare d'être entrepreneur. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans le phénomène inverse. Si on n'a pas créé son entreprise, on est... Voilà. Mais donc, d'avoir vécu tout ce retournement de l'écosystème est intéressant. On se dit que même si on est passé d'une extrême à l'autre, il reste quelque chose et il y a une génération d'entrepreneurs qui sont là pour aider d'autres, qui ont donné envie à d'autres et qui ont créé des flux financiers qui permettent finalement d'avoir un écosystème qui est quand même beaucoup plus puissant qu'avant et qui du coup attire aussi de l'argent de l'extérieur. Donc je pense qu'on est un peu dans un cercle vertueux. Après, pour répondre à votre question, je pense que le danger demeure. Je ne sais pas comment on va le gérer.
Vous, à titre personnel, en tout cas, vous savez que, parce que vous êtes déjà fixé comme objectif de quoi qu'il arrive, de ne pas revendre ces entreprises ou de les amener le plus loin possible. Quelle est votre approche?
Moi, je effectivement, faire un exit n'est pas mon souci aujourd'hui. Après, je suis très prudent parce que en fait, il faut être un peu trop sûr de soi pour dire « quoi qu'il arrive, je ne ferai pas ». On fait ce qu'on peut en fonction des situations. Mais bien sûr, je fais pas ça pour faire un édito.
Et alors, vous mentionnez 1987 comme date de votre première demande de création d'entreprise. Je vais pas vous demander de décrire à quoi ressemblait le monde à l'époque, parce que moi-même j'y étais. mais pour beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, c'est une période bien différente de celle qu'on peut connaître aujourd'hui. Qu'est-ce qui, vous, à l'époque, vous a amené vers ça, vers l'entrepreneuriat, qui était vraiment, comme vous le disiez, pas la voie royale du tout?
Alors, moi, ce qui m'a amené, c'est un phénomène un peu particulier. Je travaille dans un laboratoire de recherche avec Jacques Levinaire, qui est un homme formidable, qui était directeur du laboratoire dans lequel j'étais, avec qui j'ai fait ma thèse dans le domaine des radiocommunications. Et c'était un laboratoire qui, contrairement à beaucoup de laboratoires de l'époque, était déjà ouvert sur le milieu industriel. Donc, on développait pour des industriels des choses dans le domaine des radiocommunications. Et on était assez frustrés parce que deux fois, on avait développé des choses pour les industriels, on s'était donné à fond, et au moment où l'industriel devait commencer à verser des redevances en contrepartie du travail qui avait été fait, ça arrivait X années après, puis les croissances étaient longues, et en général les équipes de direction avaient changé, et on se retrouvait face à des équipes dirigeantes des entreprises pour lesquelles on avait fait ce travail, qui nous disaient « Mais pourquoi on vous paierait ?» Et on avait... vous faites rien aujourd'hui. Enfin, il y avait quelque chose qui nous frustrait beaucoup dans la relation. Et donc, à un moment donné, on s'est dit, on va se jeter à l'eau, puisque voilà, on va le faire, quoi. Ce qui était totalement inconscient. franchement, aujourd'hui, je sais pas si, enfin, vu l'écosystème de l'époque, je sais pas si je le referais. C'était totalement inconscient parce que on était dans un laboratoire de recherche. On connaissait rien au monde de l'entreprise. Moi, j'étais super timide, incapable d'appeler un fournisseur pour négocier. La qualité, je ne savais pas ce que c'était. J'avais jamais visité une usine. Je me souviens je raconte souvent que le premier rendez-vous qu'on a eu avec un commissaire aux comptes, un soir à 20h, au bout d'une heure, il nous a écoutés. Il nous a dit « Bon, écoutez, je vous conseille d'arrêter. » Et en plus, on n'avait pas d'accès à l'information. Aujourd'hui, c'est facile d'accéder à l'information. Et voilà, vous cliquez... Mais à l'époque, ça n'existait pas. Ah, donc, le monde était franchement différent. Alors, on a eu du bol. Y a des industriels qui nous ont fait confiance, finalement. On était en retard. Ils nous ont hurlé dessus, mais ils sont restés. Ils ne sont pas partis. Et puis, on a appris, quoi. On a appris, mais vraiment, on a appris à la dure.
Donc là, vous disiez, si je devais recommencer à cette époque, je ne suis pas sûr. Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à titre personnel, de vous lancer? Moi, c'est ça qui m'intéresse. De savoir, est-ce que vous avez réfléchi à ça?
Je pense que je suis fils d'agriculteur. Je pense que dans le métier d'agriculteur, il y a un peu un côté entrepreneur. Moi, j'ai vu mes parents essayer beaucoup de choses qui ne marchaient pas, etc. Mais voilà, un peu ce désir de tenir son destin. Ma femme dit souvent que je suis... Je ne sais plus quel adjectif elle utilise, mais enfin, quelque part, je suis compliqué. Donc, de toute façon, si je ne suis pas un peu maître de mon destin, ça ne marche pas. Je pense que c'est difficile à qualifier. Je pense que c'est quelque chose qu'on a en soi. Moi, je compare parfois, ça choquera peut-être les artistes, les sculpteurs, mais... un artiste, ben il a quelque chose, il a c'est plus fort que lui, il a envie de modeler quelque chose. Je pense que moi j'avais envie de modeler la matière et d'aller jusqu'au bout de la matière pour faire un objet, pour le vendre, et j'étais très fier des objets qu'on faisait, même s'ils n'étaient pas bons, j'étais convaincu que toute la planète allait s'y intéresser, et j'ai découvert à la dure que une fois qu'on avait fait notre premier produit, j'étais vraiment convaincu que les gens allaient se bousculer à la porte pour venir l'acheter. En fait, il y avait personne. Et voilà, donc
comment on gère cet aspect-là? C'est vrai que c'est un sujet dont on parle. On commence un petit peu à parler dans la French Tech, l'échec, comment on gère justement ces phases-là. Quand vous êtes confronté à ça, il y a forcément une forme de désillusion. Comment vous surmontez et vous trouvez l'énergie pour continuer?
Je pense qu'il y a deux ressorts. Alors, je ne sais pas s'ils sont bons, mais il y en a un, c'est que on n'aime pas l'échec. Donc, il y a toujours une part d'amour propre dans le truc. Voilà. Donc, on s'est pris une claque, mais on n'a pas envie de montrer qu'on a perdu. Quoi. Et puis, la deuxième, c'est que l'aspect économique, enfin, ou financier de la chose, nous ramène à une réalité qui fait qu'à partir du moment où on a embarqué des gens avec soi, voilà, on a commencé à créer une équipe, on est attaché à cette équipe et on a envie que cette équipe continue. Quoi. Et donc, je pense que ça, c'est un vrai ressort. Du coup, on se bat, on fait des trucs qu'on n'a pas envie de faire pour que ça marche. Voilà, donc et petit à petit, les choses se font. Puis il y a des moments où ça va mieux, des moments où on peut se reconsacrer à ce qu'on aime. Et c'est un peu comme, je pense, toute expérience dans la vie. Quand vous essayez de faire quelque chose que vous n'avez pas vraiment fait, ben, au début, vous avez envie. Puis quand vous commencez à le faire, ben, vous rencontrez des difficultés. Et puis si la passion, au fond, est suffisante, eh ben, vous traversez ces difficultés. Et parfois, je vais dans des écoles d'ingénieurs pour parler un peu de l'entrepreneuriat. Et on me demande souvent, finalement, qu'est-ce que vous conseillez à quelqu'un qui a envie d'entreprendre? Moi, je lui dis ben, d'aller s'isoler du monde pendant une semaine, sans son conjoint, sans ses parents, bien sûr. Voilà, de réfléchir, si possible, en étant accompagné dans une structure type maison de retraite, pour voilà, prendre du temps de silence et voir un peu ce qui habite au fond. Parce que si on est entrepreneur, de toute façon, on va se prendre des claques. Je ne connais pas d'entrepreneur qui ne s'est pas pris des claques. Si on a pris cette décision parce que c'est ce qui nous habitait, la plupart du temps, on va être capable de traverser ces claques et de continuer. Si c'était juste une mode parce que voilà, ça faisait bien, parce qu'on était excité par son copain qui faisait la même chose, parce qu'on se dit ça va être super, mais qu'au fond, ce n'est pas ce qui nous habite, eh bien, on va se faire balayer très vite.
Et là, vous mentionnez maison de retraite, mais c'est bien la maison de retraite de ce quartier du monde.
On est d'accord? Oui, c'est pas une maison de retraite de personnes âgées. Ouais.
Est-ce que ces moments de silence, voilà, ou ces moments de d'introspection sont évidemment essentiels? Comment vous-même vous les gérez? Moi, j'ai plutôt l'impression qu'aujourd'hui, la jeune génération fuit ces moments. C'est-à-dire que quand on les voit, on voit des breaks, comme ils appellent ça, pour aller faire du kite. Ils se réunissent. Voilà, ils vivent à 1000%. J'ai l'impression qu'il n'y a plus ces moments d'introspection. Pourquoi pour vous c'est important et comment vous les gérez?
Alors, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je pensais ça. En fait, il se trouve que j'ai accompagné avec ma femme quelques week-ends pour des jeunes comme ça, il y a 10-15 ans. Et effectivement, la règle du jeu, c'était du vendredi soir, dimanche soir, silence. Donc, il y a des moments où on se retrouve, on explique des choses, etc. Et après, chacun prend des temps de silence, les repas sont en silence. Et il y a des gens qui explosaient en cours de route et qui partaient. Quoi. Et donc, se dire, je vais vivre deux journées de silence, c'était pas possible. Mais il y a des gens qui aimaient. Mais par contre, je pense que ça a énormément changé. J'étais surpris, j'étais un événement investisseur l'été dernier, où il y avait peut-être une centaine d'entrepreneurs, et j'ai eu plusieurs conversations avec des gens qui disaient « Ouais, moi je suis allé me mettre au vert, j'ai fait alors, soit un truc de méditation, soit une retraite spirituelle, soit etc. » Et je regardais comment les autres réagissaient, c'était le truc qui faisait envie. Et donc je pense qu'il y a un vrai tournant. Et je pense que vous avez vu aussi ce que fait Jack Dorsey. Je lisais, je passe peut-être dans votre journal, le fait que les maisons de méditation dans lesquelles il allait étaient prises d'assaut. Enfin, je pense qu'en fait, il y a un vrai tournant. C'est-à-dire qu'on a passé ce temps où finalement, on accepte de ne jamais être en silence. Et aujourd'hui, je pense que cette génération a tellement été dans le manque de silence qu'elle comprend que le silence est nécessaire. Moi, je pense que dans toute évolution, il y a toujours cet aspect un peu suspension de deux chevaux, c'est-à-dire que ça monte et puis après ça redescend et on retrouve une position d'équilibre. Moi, sur un autre domaine, j'ai été frappé. J'habitais avec mes parents dans un petit village. me souviens que à 18 ans, de temps en temps, j'avais envie de partir, de marcher. Donc, je partais le soir après le travail à la ferme, marcher pendant une heure. De temps en temps, je rencontrais des voitures de gens que je connaissais qui me disaient « Mais tu veux qu'on te prenne en stop ?» et qui ne comprenaient pas que je marche. C'est-à-dire que pour aller à la boulangerie à 200 mètres, on prenait la voiture. Parce que, voilà, il y a eu un moment donné où la voiture est arrivée et donc c'était le tout voiture. Aujourd'hui, on revient dans une position d'équilibre. Il y a des moments où on va prendre la voiture. Et je pense que toute évolution est un peu de ce type-là. On a eu une espèce de frénésie avec l'accès à l'information, l'accès aux réseaux sociaux, etc. Et il va y avoir une vague contraire où on va reprendre goût au silence. Et c'est pour ça qu'il est important qu'il y ait des structures qui tiennent pendant ces vagues un peu négatives pour être présentes et offrir des possibilités de repos, des possibilités de silence, des possibilités d'être accompagné, parce que quand vous n'avez jamais été en silence, si vous mettez en silence tout seul pendant une semaine, c'est la souffrance totale, quoi. Donc il faut être aidé, quoi.
Voilà. D'accord. Vous pensez à quel type de structure en particulier ?
Il y a un certain nombre de structures qui sont des structures d'accueil avec des accompagnateurs pour vivre des temps où on va à la fois faire du travail manuel, prendre des temps de silence, prendre des temps de méditation. Moi, je côtoie plutôt des maisons de retraite spirituelles, mais je pense que voilà, ces structures sont super importantes. Et elles ont eu énormément de mal à vivre. Il y en a énormément qui ont fermé ces 20 dernières années parce que, justement, il n'y avait plus de clients. Et je pense que là, il va y en avoir énormément.
Mmh. Et comment dire, vous êtes marcheur, vous avez mentionné la marche, on me dit que vous êtes un grand marcheur.
Grand, je ne sais pas, mais c'est marcheur.
Qu'est-ce que vous faites particulièrement ? Est-ce que vous faites des périples, entre guillemets ? Comment vous avez organisé ça dans le temps du travail ?
Alors, d'abord, j'essaye de... Enfin, en moyenne, je vois, puisque je mesure.
Oui, vous devez mesurer.
je marche plus de 10 000 pas par jour en moyenne. Et ça me fait du bien. Et les rares journées où je ne marche pas, en fait, je me sens mal à la fin de la journée. Donc, c'est devenu un peu nécessaire. Et puis, on va souvent dans les Pyrénées où, en fait, je ne suis pas un découvreur, je ne trouve pas le mot, quelqu'un qui va...
Un explorateur.
Un explorateur, voilà. Ce que j'aime faire, c'est quasiment toujours la même balade. Et partir, donc on a acheté une vieille ferme dans les Pyrénées. Partir du village dans lequel on est et monter au-dessus. Voilà, on ne rencontre personne, parce que ce n'est pas des chemins particuliers. Et ça me fait énormément de bien. Et alors, il y a plein de gens que ça étonne en disant « Mais attends, il y a un truc qui est magnifique là. » Bon, la plupart des balades, on les a faites. Mais ce que j'aime naturellement faire, c'est finalement refaire ce même type de balade. Et il y a un beau bouquin dont j'ai oublié le titre qui a repris comment la marche entrait dans la vie d'un tas de personnes. Et ce qui était intéressant, c'est de voir que finalement, il y a plein de gens qui vivent la marche différemment. Il y a des types explorateurs qui ont besoin de monter le truc le plus haut, ou de jamais faire deux fois la même balade. Et puis, il y a des gens qui ont plaisir. Et ça fait partie d'une espèce d'hygiène à la fois de l'esprit et du corps, de ne pas s'occuper du chemin, mais simplement de marcher.
D'accord. Et vous mentionnez ce besoin de spiritualité. Pardon. À quel moment il est né ? Comment il se traduit par ailleurs ? Parce que je crois que vous avez fait Ginette, la prépa versaillaise qui est jésuite, c'est ça ?
Ouais, ouais.
Voilà. Comment vous avez vécu ce cheminement spirituel ?
C'est un peu compliqué. En fait, je pense qu'il y a... ça fait longtemps que je baigne dans l'univers ignatien, enfin des jésuites, que j'apprécie beaucoup. Je suis un grand fan de Teilhard de Chardin. Enfin, je pense que si à 10 ans ou enfin, je sais pas combien, j'avais pas lu Teilhard de Chardin, j'aurais vécu une phase un peu compliquée.
Qui était un prêtre philosophe.
Et qui était un prêtre, un jésuite paléontologue, et qui a fait beaucoup de recherches, qui était connu pour sa recherche, qui a énormément publié de son vivant et qui n'a pas, enfin, qui a écrit de son vivant, mais qui n'a pas pu publier. Mmh. Et c'est à sa mort que ses écrits ont été publiés. Mais voilà, il offre une perspective de l'évolution qui est très intéressante. Pour essayer de répondre à cette question sur mon cheminement, enfin, je pense que le prendre des temps d'isolement a été important. Je pense qu'il y a quelques lectures qui m'ont vraiment marqué. Je pense que ce qui m'a beaucoup aidé dans Pierre Teilhard de Chardin, c'est qu'il, quelque part, il pense hors les murs. C'est-à-dire que c'est un des rares qui a essayé de rendre, d'intégrer ce que la science moderne a porté au monde dans l'histoire d'une foi. C'est-à-dire que finalement, c'était pas forcément la peine d'essayer de gérer l'un à côté de l'autre ou d'avoir l'un qui exclut l'autre, mais que finalement il y avait quelque chose à entrer, et qu'à partir du moment où on y entrait entièrement, ben finalement on arrivait à découvrir que voilà, une expérience spirituelle, c'est au-delà de ce que un certain nombre de schémas essaye de nous expliquer. Et donc, d'une certaine façon, je suis un peu en opposition avec un certain nombre de choses qui sont vécues dans l'Église. Et en même temps, je suis croyant. Donc, avec plein de contradictions, hein, mais je fais comme je peux. Mais en tous les cas, pour moi, c'est important. Hein.
Et est-ce que des entrepreneurs, les entrepreneurs, notamment dans la Silicon Valley, qui peuvent être parfois dans l'excès, quelle que soit sa forme, est-ce que ça vous fait peur, vous ? Est-ce que vous pensez que le modèle français de l'entrepreneuriat tech peut trouver sa voie différemment de celle-ci ?
Oui. Enfin, les entrepreneurs de la Silicon Valley m'ont fait très peur et m'ont même angoissé à un moment donné avec cette histoire de transhumanisme. Je pense que le transhumanisme a oublié qu'on était aussi composé d'un corps. Et donc, finalement, notre sensibilité, la façon dont on crée de la relation, etc., ben c'est lié à notre corps et à notre esprit. Et on n'est pas juste une machine intellectuelle. Et que n'importe quel réseau de neurones ne serait pas capable de recréer ça. Et donc ça, maintenant, je suis à l'aise avec ça, et donc du coup, je ne suis plus dans cette angoisse-là. Il en reste pas moins qu'ils ont une puissance tellement folle que, il faut faire gaffe. Alors, j'ai un petit peu l'impression que la Silicon Valley est un peu en train d'entrer dans un mode complètement fou, ou une espèce d'accélération qui devrait finalement un jour les entraîner dans une décroissance. Comme à chaque fois que le fric devient trop présent, on voit les salariés changent de boîte tous les 6 mois, c'est super compliqué de créer de l'affection pour une histoire. Et d'ailleurs, on voit qu'un certain nombre de grandes entreprises l'ont compris, puisqu'elles sont en train de migrer vers la côte est des États-Unis. Beaucoup regardent vers l'Europe. Donc, pour moi, il y a plein de bons signes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous discutez avec des gens de la Silicon Valley, la culture qui nous habite, cette conception artistique, notre histoire, notre philosophie, tout ça, ils se disent, finalement, c'est important. Là où il faut qu'on fasse gaffe, c'est que quand ils viennent s'installer au cœur de Paris, à la fois, ils créent de l'échange, en même temps, ils font monter fortement les salaires, ils attirent un certain nombre de talents qui, quelque part, créent toujours du renvoi par là. Donc, je pense qu'il y a quand même un petit truc où il faut être un petit peu prudent. Mais moi, ce qui me motive aujourd'hui, c'est que je pense qu'on a passé l'étape du tout technologique. Et que la technologie, finalement, elle est là pour être au service de l'homme. Mais à un moment donné, on est allé dans le tout technologie parce qu'on avait besoin, à travers la technologie, d'apporter plus de services à l'homme. Mais aujourd'hui, elle évolue tellement vite que le problème n'est plus l'évolution de la technologie. Le problème est la façon dont l'homme est capable de se l'approprier. Et donc, du coup, il faut que tous nos acteurs des sciences humaines se remettent au boulot, quoi. Moi, j'ai trouvé très dommage que dans cette scission qu'on a eue entre le scientifique et les sciences humaines dans notre pays, à un moment donné, on a toutes les sciences humaines qui se sont mis hors, qui ont démissionné de ce qui nous arrivait dans le domaine technologique. Les philosophes étaient dans d'autres, étaient ailleurs, les sociologues aussi, etc. Là, depuis 5 ou 10 ans, on a un mouvement arrière qui fait qu'ils se remet ensemble. Et nous, chez WeThings, par exemple, on a embauché des médecins, mais on a embauché une psychologue. On est en train de rechercher un sociologue et un philosophe. Parce que quand on s'adresse au domaine de la santé, si on ne tient pas compte de la façon dont on est capable de motiver une personne, de la façon dont, finalement, dans une histoire humaine où on a toujours vécu de telle façon, on essaye d'apporter une autre façon de vivre avec sa santé, si on ne tient pas compte de ce qu'est l'homme, notre technologie, elle ne rentre pas. Donc, on a besoin d'apprendre à parler, on a besoin de comprendre ce qui permet de faire un pas de plus, etc. Et donc, je pense qu'il y a un virage super important dans lequel l'Europe a énormément à dire. Ce qui continue à m'inquiéter, c'est que ce sont des choses lentes. Ce sont des choses profondes, mais ce sont des choses lentes. Et on a une telle fascination aujourd'hui pour le demain est un jour complètement nouveau, qu'il faut qu'on ait le courage d'entrer dans ces chemins plus lents, qui sont plus profonds, qui vont utiliser la finance pour quelque chose qui va être plus durable, mais qui va demander de l'effort longtemps. Et c'est moins excitant qu'un Facebook qui prend 100 milliards en 3 ans, quoi.
D'ailleurs, les entrepreneurs, il y a un livre, un ouvrage, le Blitzscaling, qui a été écrit par Reid Hoffman, des cofondateurs de LinkedIn, qui fait un carton et qui explique le terme le dit, Blitzscaling, donc croître extrêmement rapidement. Est-ce qu'il n'y a pas une scission justement entre deux formes d'entrepreneuriat tech, et est-ce qu'il n'y a pas deux visions qui sont en train de s'affronter? Et on le voit aussi en Chine quand on voit la trajectoire d'Alibaba, quand on voit tout ça participe à un emballement extrêmement fort. Est-ce qu'on peut l'arrêter?
Je ne sais pas répondre à cette question. Mais en tous les cas, il faut qu'on arrive à tous s'auto-éduquer là-dessus pour être vigilants dans notre façon de faire, dans notre façon d'utiliser tel service ou tel autre. Il y a Ludovic Lemoine qui a dit cette phrase il n'y a pas longtemps, que je trouvais à la fois choquante, et puis après en y réfléchissant, je me dis, mais finalement, c'est pas si bête. J'aime beaucoup Ludovic.
Fondateur de Sigfox.
Fondateur de Sigfox. Il était interrogé, je crois, sur BFM. On lui demandait, mais faisait parler autour d'Amazon. Et il dit, de toute façon, moi, j'ai essayé tous les services. Effectivement, Amazon est bien meilleur que les autres. Peut-être qu'on devrait imposer qu'on ne peut pas livrer en moins de 48 heures. Et je trouve que c'est choquant. Mais en même temps, je trouve que même si on ne le fait pas, au moins nous amener à réfléchir là-dessus. Pourquoi j'ai absolument besoin d'être livré en moins de 24 heures? Et donc pourquoi finalement je concentre The winner takes all, quoi. Parce que il faut toujours que j'ai le mieux, le plus rapide, etc., instantanément. Donc ce rapport au temps, finalement, est aussi ce qui, à travers l'Internet, nous pousse à des extrêmes, comme l'arrivée de la voiture nous a poussé à des extrêmes, parce que c'était aussi un autre type de rapport au temps. Donc je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir sur la façon d'aborder ces transformations technologiques qui viennent changer notre vie et qui, quelque part, travaillent toujours sur notre rapport au temps. Et on voit bien qu'on met du temps à réguler ça. Le problème est que la technologie a accéléré énormément. Au moment donné, quand la voiture est arrivée, ça a pris du temps. Et puis la voiture, n'empêche que même avec une voiture, pour faire 1000 km, il faut du temps. Là, avec l'information, on est passé d'un autre ordre de grandeur. Et donc, du coup, le travail, il est plus important. Mais je pense qu'il est absolument salutaire si on veut survivre, quoi.
Et ce rapport au temps, comment vous le gérez par rapport à vos investisseurs qui sont, eux, dans un rapport au temps très figé, qui ont du mal à évoluer sur cette question. Voilà, comment vous arrivez à leur faire entendre raison là-dessus?
Bah, ça explique peut-être que je ne m'entends pas très bien souvent avec les investisseurs, mais... je pense... En fait, souvent, les investisseurs, en fait, ce sont des équipes d'investissement qui sont au service d'argent qui leur a été confié. Mmh. Et donc, il y a une séparation entre le désir de celui qui a confié l'argent et le désir de celui qui la gère. Celui qui la gère, il a quand même souvent une attention excessive à sa prime de fin d'année, quoi. Mmh. Donc, je pense que le jour où on aura résolu ça, ça ira mieux. Je pense que Marie Kland, comme on le disait tout à l'heure, elle est en train de travailler sur une nouvelle façon d'imaginer ce rapport entre ceux qui ont envie d'investir pour demain et ceux qui entreprennent, donc pour gérer autrement ce rapport au temps. Je pense que ce qui nous a énormément manqué dans ce pays, contrairement à des pays comme l'Allemagne, où voilà, ce lien direct existait beaucoup plus et donc a modéré un peu cette accélération. Voilà, et donc je suis assez convaincu qu'il y a une prise de conscience forte aujourd'hui que quand on a de l'argent et qu'on l'investit, on peut réfléchir à cet investissement autrement que pour un gain instantané. Enfin, je pense qu'il y a un mouvement aujourd'hui assez fort. Je n'espère pas que d'ici 5 ou 10 ans, il y ait une prise de responsabilité et qu'il y ait des nouvelles structures qui existent qui ne nous mettront pas effectivement sous cette contrainte des 5 ans. Il faut sortir dans 5 ans. Quoi.
Et une dernière question pour terminer cet entretien. Vous avez aujourd'hui donc 4 entreprises. Est-ce qu'il y en a une cinquième, la place pour une cinquième? Il y a d'autres sujets que vous souhaiteriez attaquer?
Non. Ma femme m'avait déjà demandé d'appeler la dernière entreprise que j'ai créée, la dernière.
C'était laquelle?
Je ne sais plus laquelle c'était, mais c'était même pas la dernière, en fait. J'en avais vendu une, je me suis autorisé à en créer une autre. Mais je crois que là, je vois que c'est... Il faut pas se disperser plus. Enfin, j'ai beaucoup de demandes pour participer à des investissements dans des entreprises et maintenant je dis systématiquement non parce que c'est trop se disperser et j'ai ce désir au contraire d'avoir du temps pour travailler plutôt sur la partie recherche avec les ingénieurs, etc. Donc, non.
Très bien. Merci beaucoup, Ekal.
Merci à vous.
Vous venez d'écouter Take Off, un podcast des Échos. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver ce podcast disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Pour toute l'info des Échos, retrouvez-nous sur leséchos.fr.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.